Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon midi à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Histoire qui part sur les chapeaux de roue parce qu'on a beaucoup de films à aborder et ben il y a des grosses nouvelles qui sont sorties, ben une grosse principale nouvelle, c'est-à-dire le line-up du Festival de Cannes qui a été annoncé hier, je crois, aux petites heures du matin. J'étais réveillé parce que j'ai des enfants, mais vraiment très beau line-up, mais juste avant, on va faire un petit plan de l'émission là, parce que, comme je vous dis, il se passe un peu d'affaires ici et là. Il y a le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke qui bat son plein en ce moment et jusqu'à dimanche. J'ai eu la chance d'animer au Centre culturel les deux ciné-campus. C'est des, pour ceux et celles qui auraient manqué l'édition, ben c'est deux projections de courts-métrages d'animation là, sur l'heure du midi. C'est gratuit, puis c'est fucké des fois.
Oui, j'étais là l'année dernière.
Ouais, l'année dernière, ouais, c'était ça. Plus fucké que cette année.
Ah ouais.
Je pense que l'année passée, c'était genre 16 ans et plus. Là, c'était 13 ans et plus.
Okay. Okay.
Ils ont fait, ouais. Et tu sais, c'est quel don, celui où...
Il y a des vieux monsieur tout nus.
Ouais. Qui... Il y avait beaucoup de nudité.
Ouais, dedans, c'est vrai qu'il y avait beaucoup.
Mais cette année aussi, il y en avait beaucoup, ah, mais elle était moins... comment dire... pété sous l'acide. bref, non, c'était vraiment cool quand même. Il y a le film d'ouverture aussi qui a ouvert le festival, là, mais dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Je l'ai vu, mais j'ai pas le droit d'en parler jusqu'au mois de juin à sa sortie officielle. Mais j'ai réalisé des entrevues avec la réalisatrice Lynn Charlebois, ainsi que Alexandre Goyette et Sylvie Moreau de la distribution. On va les entendre, ces entrevues-là, un peu plus tard à l'émission, et je vous reparlerai en juin là, de ce film d'ouverture. Là. C'est ça. Il y a d'autres films aussi dont on va parler, notamment The Old Oak de Ken Loach, son plus récent film, qui était à Cannes l'année passé, donc presque un an après sa sortie. Il y a Sur la Terre comme au ciel aussi, film québécois, et Une année difficile, que lui, on va l'aborder peut-être pas trop en profondeur parce que c'est le film de clôture aussi du Festival Cinéma du Monde. Là, il sort en théorie aujourd'hui, mais beaucoup de gens, je pense, vont le voir dimanche. En tout cas, on verra à quel point on va plonger à fond, mais on va vous en parler. Et puis, petite nouvelle brève aussi, quand même cool. Vous connaissez peut-être mon amour pour Criterion et ce branding-là qui sort des formats physiques et qui ont une plateforme de streaming. Ben, ils ont parti ce qu'on appelle Criterion Live. Donc, c'est un poste de télé de Criterion.
Ah, oh là là!
Ouais. sur la plateforme. Là, donc, plus pas tant un poste de télé, mais plus un... comme sous-écoute fait, là, comme un live
continue,
stream, c'est
ouais.
Ça, d'épisodes un peu random. C'est vraiment cool. Puis là, tu sais... Je voyais, j'étais allé me promener sur les fils Reddit là, pour voir ce que le monde en pensait. Évidemment, tout le monde est quand même relativement hype. Grosso modo, là, ce qu'ils proposent, c'est juste comme « Hey, on met des films en continu, puis comme vous joinez, puis vous faites... vous l'écoutez ou pas. »
Il y a une discussion en direct?
Non, il n'y a pas de discussion en direct, malheureusement. Puis j'ai quand même des améliorations à proposer aussi.
Oh.
S'ils nous écoutent,
ouais,
s'ils traduisent en direct. Non, mais est-ce que... tu sais, il y a du monde qui chialait, t'es comme... Ah ben c'est ça, hein? On réinvente réinvente la télévision. Là, t'sais, on nous a fait à croire que la télévision c'était plus bon pour nous. On est tous allés sur le streaming, puis là tous les postes de streaming font des postes en live.
Ouais,
Amazon aussi fait ça, Crave aussi fait ça. Mais c'est ça. Puis là, la discussion était quand même assez. La réflexion est. De base est quand même legit. Mais la discussion après ça m'a fait changer un peu d'idée parce qu'il était comme oui. C'est vrai qu'on n'est plus sur le câble, mais il y a quand même une différence d'avoir quelqu'un qui choisit ce que tu écoutes versus, mettons, aller sur Netflix puis avoir tout ce choix-là. T'sais, ils disent, ben, tu n'as pas de contrôle qualité nécessairement sur Netflix. Tu as de la pire cochonnerie de je sais pas quel pays ou de je sais pas quel genre. Puis tu as les gros classiques du cinéma. Puis tu as comme, tu sais, ils appellent en anglais des curators, là, justement, ou des programmers, donc des gens qui construisent une programmation puis qui c'est ça, pousse davantage un film versus un autre. Puis effectivement, ça, je trouve que ça manque un peu parce que on n'a pas le temps de faire le tri à travers tout ça. On se fie à ce qu'on voit sur les médias sociaux, on se fie à peut-être du bouche à oreille. Mais des fois, il y a des trucs, tu sais, surtout pour des vieux films, du bouche à oreille, il n'y en a plus, là. c'est fini pas mal. Fait que je trouve que c'est quand même assez intéressant de pouvoir juste comme aller sur le live feed, regarder qu'est-ce qu'il joue. Des fois, tu vas pogner des affaires. Tu sais, je suis tombé sur un film que je pensais qu'il était en italien. Finalement, c'était en tchèque. Je me savais l'air italien. Puis c'était une comédie musicale sur des gens qui chassent un chat. Puis là, après ça, tu vois le chat. Puis la vision du chat, c'est tous les personnages virent en couleur puis ils font un musical. Puis, tu sais, je sais pas si, je sais même pas trouver le titre, en fait, de ce film-là. Mais j'étais comme, c'est bien whack. Puis c'était quand même intéressant. Bon, fallait que je vienne travailler, mais j'aurais été tenté de l'écouter. Mais ce qui m'amène peut-être à mon point numéro un de modification à faire, ce serait d'abord d'identifier le film que je suis en train de voir. Parce que, tu sais, dans un poste de télé, ben, t'es capable de le voir. Tu sais, bon, OK, ce film-là, je l'ai déjà vu, whatever, je l'écouterai pas. Non, non. Là, on n'a pas de moyen d'identifier qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Okay. Ce qui est quand même un peu problématique.
Ouais, je suis
j'ai pas, honnêtement, tu sais, la première demi-heure que j'ai regardé, j'ai même pas tant regardé le film. J'étais comme, bon, c'est quoi ce film-là? Puis là, je faisais des recherches. des gens qui chassent un chat. Un chat musical. Ça me donnait 4. J'étais comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que première amélioration. Deuxième amélioration, peut-être effectivement un chat. Ça pourrait être cool, là, ce qu'il y a sur Twitch, par exemple. Je sais pas à quel point les gens participeraient ou, tu sais, moi, je suis pas très utilisé vos selles pendant qu'on écoute un film, là, surtout quand c'est un film en tchèque qu'il faut que tu lises les sous-titres. Puis ma troisième amélioration, mais c'est justement d'avoir l'option des sous-titres ou non, parce que même les films en anglais, ben, ils passent non sous-titrés, les films en langue différente, ouais. Ils sous-titrent, là, mais c'est ça, tu sais, moi, j'aime... Je suis quand même à l'aise en anglais, mais un vieux film en anglais, des fois, c'est,
ah, le son,
ça peut être...
Ouais,
c'est ça. Fait que, voilà, mais allez voir ça si vous êtes abonné à au Criterion Channel. Là, ça vaut vraiment la peine. Puis, c'est ça, on peut faire des belles découvertes. Là. Je suis tombé sur un film de samouraï hier soir. Là, c'est très cool. Sinon, ben vite, là, je vais parler du Festival de Cannes qui a annoncé son line-up. Des gros noms qui vont être là, notamment, là, ce qui fait beaucoup jaser, c'est une triple reunion entre Francis Ford Coppola, là, qu'on connaît pour Le Parrain, Apocalypse Now, George Lucas, qui va recevoir une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, et Paul Schrader, qui a fait bien des films, là, mais qui a aussi écrit Taxi Driver et tout, puis ils ont déjà les trois travaillé ensemble. Donc, la vieille garde qui prend d'assaut Cannes, qui Cannes, d'habitude, c'est un bon mélange entre des nouveaux qui arrivent, puis des gens bien établis. L'année passée, c'était Martin Scorsese qui était là. Donc, la soirée d'ouverture, ben, c'est Quentin Dupieux, celui qui a fait Yannick récemment,
ah oui, okay.
Qui arrive avec son... C'est son troisième film depuis Yannick, qui est sorti, je le rappelle, en janvier. Là. The Second Act, le deuxième acte. Sinon, en hors compétition, il y a Furiosa, là, le nouveau film de Mad Max qui va sortir de George Miller. Horizon, An American Saga, que j'ai très hâte de voir. C'est Kevin Costner qui nous propose un film, en théorie, en 4 parties, mais là, il y en a juste 2 de prévus pour cet été. Lui, il retrace l'histoire des États-Unis tu sais, juste après la guerre de sécession jusqu'à temps qu'il découvre de l'or, là, des affaires de même. Là. Fait que un gros film épique à voir sur grand écran. J'ai bien hâte de voir les échos de ça. Sinon, She's Got No Name de Peter Ho-Soon Chan et Rumors du réalisateur canadien Guy Madden. Sinon, en compétition, ben là, je vais y aller en rafale. Francis Ford Coppola, donc pour Megalopolis, je rappelle pour ceux et celles qui ne savent pas, il a investi 100 millions de dollars de ses poches pour faire le film parce que personne ne voulait le financer. Puis ça fait
100 millions?
Ouais, 100 millions. Il a vendu son vignoble.
Il a des grandes poches.
Ouais, ben, tu sais, c'est ça, il est très très riche, on s'entend. Mais.
OK, il a vendu, OK.
Ouais, ouais, il a vraiment mis sa vie on the line. Tu sais, il a 86 ans. Là,
ah, okay.
Mais ça, tu sais, il a fait, je pense, 3 films depuis les années 2000. Il a beaucoup de difficultés à financer ses projets. Puis là, c'est comme un gros film épique, celui-là, avec Adam Driver, avec beaucoup une grosse distribution. Personne ne voulait le prendre, ce projet-là. Là, il l'a tourné de ses poches. Puis là, personne ne veut l'acheter pour le distribuer. Fait qu'on va voir si le buzz à Cannes va aider ou non. Ça passe ou ça casse. Là. Si la critique le démolit, c'est sûr qu'il ne sera jamais capable de le vendre à personne.
Non, c'est là que ça se passe.
Ouais, c'est ça. Puis si ça gagne des prix, ben là, ça devrait se vendre.
C'est quoi le genre de film?
C'est vraiment un film épique. C'est un film un peu à la Parrain, si on veut. Là, mais une espèce de... comme un faux biopic, là, c'est un biopic, mais de quelqu'un qui n'existe pas. Mais, okay. mais on ne sait pas grand-chose, en fait, de ça, parce qu'il gardait le projet assez secret.
Il n'y avait plus de budget pour la promo. Non, là.
Ben, pour vrai, il n'y en a pas de promo là, en ce moment. Il a sorti un logo, puis il n'y a même pas de trailer encore, ou en tout cas, il y a des images, mais pas tant que ça. Ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, dans les films marquants, ben, peut-être Motel Destino de Karim Aynouz, qui est quand même un habitué de Cannes. Bird, le nouveau film d'Andrea Arnold, Jacques Audiard qui revient aussi avec Emilia Perez, David Cronenberg qui revient avec un autre film d'horreur, The Shrouds, sinon Christophe Honoré avec Marcelo Mio, Yorgos Lanthimos hein, de Poor Things qui revient déjà avec son nouveau film. Il y a déjà deux films de fait lui aussi depuis Poor Things.
J'ai vu un trailer, ouais. Il y a une...
Ouais, c'est ça, un featurette ou je sais pas trop quoi. The Kinds of Kindness, encore avec Emma Stone, Jesse Plemons, en tout cas une grosse distribution. Il va être présenté à Cannes. Gilles Lelouch avec Beating Hearts. Paul Schrader, comme j'ai mentionné, avec un film qui s'appelle Au Canada. Donc, on va le voir, pourquoi pas. moi, personnellement, Kirill Serebrennikov, c'est un réalisateur russe qui se fait beaucoup mettre en prison parce qu'il aime pas le système.
Ouais,
il a fait un de mes films préférés qu'on a vu ensemble, Leto. Qui est une espèce de biopic des années 80, qui mélange l'animation et tout. Là, il sort Limonov, en fait, qui est basé sur le roman d'Emmanuel Carrère, un roman que j'avais vraiment aimé. Donc là, je suis quand même hype de voir une adaptation d'un livre que j'ai bien aimé par un des réalisateurs que j'aime beaucoup. Fait que on va voir si le film réussit à sortir ici au Québec. Peut-être un dernier de Paolo Sorrentino, donc Partenope. Voilà. Une très belle édition encore du Festival de Cannes. Il va y avoir des vedettes sur la croisette, tout le monde va aimer ça, il va y avoir des photos. Vous allez en entendre parler au mois de mai. On va être en France d'ailleurs pendant la fin du festival, mais on sera pas à Cannes là, parce que c'est pas achetable. mais ouais, fait que un très beau line-up pour cette 94e édition du Festival de Cannes. Bon, je l'ai pas. 77e, je me suis trompé. Mais bref, voilà, donc on va pouvoir vous parler de certains de ces films-là. Quand ils vont sortir, tranquillement, là, à partir de cet été. Donc voilà, on s'en va en pause publicitaire. Au retour, on vous parle des nouveautés de la semaine et on va terminer l'émission avec les entrevues qu'on a réalisées plus tôt cette semaine.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation. Le montage et la direction photo.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis, ben... Il y a, évidemment, on va parler de trois nouveautés qui prennent l'affiche cette semaine, mais il y a une grosse nouveauté dont on ne parlera pas, évidemment parce qu'on ne l'a pas vu, il est sorti aujourd'hui. mais j'ai très hâte de le voir, c'est Civil War, donc de Alex Garland, qu'on connaît notamment pour avoir fait, pour avoir écrit 28 Days Later, pour avoir réalisé Ex Machina, je ne sais pas si tu as déjà vu ça.
C'est
ce réalisateur-là donc, qui arrive avec une proposition quand même assez intéressante.
Ça, il y a Iron Man dedans.
Non. Mauvais Civil War. Ah, bien joué, tu m'as presque eu.
Ça manquait d'humour dans l'émission.
Non, c'est ça. c'est un film dystopique, en fait, sur une gang de journalistes. Là. C'est comme une guerre civile qui éclate aux États-Unis. Il y a comme 3-4... État/société qui se crée. Puis on suit une gang de journalistes qui font la couverture de ça, puis qui se font, bon, en tout cas, presque tuer ou pourchasser.
Malmené,
c'est ça. Fait qu'on les suit à travers toute leur road trip. C'est vraiment comme un road trip à travers une guerre par des journalistes. Fait que c'est vraiment quand même assez intéressant avec Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Wagner Moura, là, qu'on connaît pour Pablo Escobar dans Narcos, là, que j'ai vu danser sur le dance floor. Continue à dire. Il était très drôle.
C'était à Cannes, ça, non?
C'était à Sundance. Ouais. Ça, c'était une expérience surréelle, mais on le salue. J'ai bien hâte d'aller le voir. Je vais essayer d'aller le voir peut-être lundi, donc je vais peut-être pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Qui sait? Sinon, trois autres films prennent l'affiche, donc... Commençons peut-être avec une année difficile qui va clore justement le FCMS, je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche. Là. Nouveau film du duo de réalisateurs qui a fait notamment Intouchable, là, un film début des années 2010. Film grand public, là, c'est un film très rassembleur comme on peut s'attendre pour clore un festival, disons. Avec Noémie Merlant, avec Jonathan Cohen, là, qui a la cote, pas mal l'acteur français comique du moment. Puis Omar Maï aussi, qui jouait dans Yannick. On a ce trio-là. Donc, on suit grosso modo là, l'histoire de deux ratés. deux gars là, qui l'ont pas facile, sur le bord de la faillite, des dettes partout. Ils ont perdu leur famille, leurs amis et tout. Ils se rejoignent dans un groupe pour aider ceux qui ont des problèmes financiers. Puis ils vont prendre une bière. Puis là, ils se lient d'amitié ou d'affinité avec un groupe de revendicateurs français, là, des socialistes qui vivent en communauté. Puis
ouais,
tout.
C'était comme des pauvres par choix, tu sais, de vivre simplement. Puis eux, c'était comme des pauvres forcés. Ouais. Fait qu'ils ont fait « On va se tenir avec eux!
» Ouais, c'est ça. Puis là, évidemment, ils sont là pour les mauvaises raisons. Ouais. Là, on s'entend. La première mauvaise raison étant ils veulent de la bière gratis. Fait qu'ils s'en vont avec eux. Avec ça, on voit quand même le ton, mais c'est peut-être pas tant représentatif. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même certains problèmes de ton par moment. Là, oui. Il y a comme une grosse demi-heure dramatique au début. Après ça, ça vire en comédie pendant une heure. Puis là, on retourne au drame vers la fin. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais que quand tu regardes la bande-annonce, tu as l'impression que c'est une comédie pure et dure. Ce que c'est pas nécessairement. Cela dit, j'ai quand même aimé l'ambiance générale du film. Tu sais, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le film parce qu'ils sont comme ça critique les woke ou les revendicateurs et tout. Puis moi je trouvais pas tant que ça. Là. Moi, je trouvais vraiment que c'était un peu une critique des deux, là, dans le sens où oui, ça critique légèrement, si on veut, ceux qui revendiquent. T'sais, évidemment, t'as des vegans ou t'as du monde qui vivent simplicité volontaire, du monde qui vont barrer des ponts ou des rues, se mettent en chess puis ils crient fort.
Mais tu sais, ils sont vraiment pas de peine négativement.
Ils sont pas de peine négativement, mais quand même un peu, parce que tu sais, on s'entend que je pense que le film prend le point de vue surtout des deux gars qui fitent pas dans la gang. Ouais. Fait que tu sais, quand y a une scène où il est dans le trailer, c'est pas de la spoiler, mais il dit « Ah, moi, j'ai donné à mon filleul pour Noël toute ma gratitude, toutes mes affaires. » Puis ils sont comme « Ah, ben ça a pas coûté cher. Hein? » Tu sais, fait que ils sont un peu absurdes de vivre de même. Mais en même temps, tu sais, je trouve quand même qu'on critique le point de vue des gars qui profitent, puis qui c'est quand même une critique un peu de l'individualisme dans lequel eux se sont plongés, puis que ça les a pas réussi. Tandis que les autres, ils choisissent la communauté. C'est clairement pas un mode de vie qui est favorisé par tout le monde nécessairement. Mais tu sais, je pense quand même qu'il y a des critiques des deux côtés, mais que c'est pas le but premier de critiquer. Je pense que c'est de créer des situations drôles plus que
Ça. T'sais, moi, la scène que tu viens de parler, je le voyais beaucoup plus pour le gag de comme, c'est pas un cadeau recevoir de la gratitude. Là,
Mais il y a beaucoup de gens, tu sais, sur Letterboxd, par exemple, qui critiquaient cet aspect-là de comme, t'sais, c'est quoi votre position par rapport à ça? T'sais, le film s'ouvre sur le Black Friday. Ils empêchent les gens de rentrer au magasin. Puis il est comme, moi, je fais juste ma job. Fait que whatever. Fait que là, t'es comme, quelle position? T'sais, si tu choisis de nous parler de la Black Friday ou du mouvement de justement, des contestations de la société dans laquelle on vit, clairement, il y a un parti pris ou il y a une position que tu prends en tant que réalisateur. Mais est floue, cette position-là. Je pense qu'elle est comme d'un côté comme de l'autre moment.
Ouais, moi, ça me semblait bien balancé.
Mais il y a du monde qui ont vraiment vu ça, probablement des revendicateurs, qui ont vu ça comme une attaque de leur mode de vie.
Clairement. Là.
Mais c'est ça. Il faut savoir rire de nous, des fois.
Ouais, ouais.
Mais globalement, toi, comment t'as trouvé ça, ce film-là?
Comme beaucoup de films, j'imagine. Je sais pas si ça vient avec les genres de blockbusters ou le grand public. Je pense que c'était beaucoup d'opportunités, peut-être manqué que ce soit très drôle. On dirait que c'est un film, j'ai plus aimé le concept. Comme j'étais vraiment hook, j'étais « Ah, c'est malade, là, comme qui infiltre un peu la gang. » Puis on dirait des fous... Tu sais, à un moment donné, on dirait que j'étais même plus sûr s'il était d'accord avec ce qu'il fallait ou faisait juste les suivre parce qu'il avait besoin d'amis. On dirait que il manquait de clarté, ou puis là, c'était pas nécessairement drôle par moment.
On n'assumait pas ni le drame, ni la comédie. T'sais, on rit pas aux éclats, mais globalement, c'est sympathique là, comme film.
Ouais.
Mais c'est ça, y a pas... On rit pas tant que ça. Puis tu sais, moi je pense vraiment que les trois acteurs principaux, ils rehaussent le film. Là. Si ça avait été des acteurs de deuxième ordre, là, si on veut, là, clairement, ça aurait été vraiment oubliable. Mais là, c'est pas non plus si mémorable que ça. Mais c'est trois, c'est Noémie Merlan, puis Omar Maï et Jonathan Cohen, comme je l'ai mentionné. C'est quand même du monde qui savent, qui ont le timing comique, si on veut, puis qui... Noémie Merlan, ben, elle a fait ses preuves, elle a gagné un ou deux Césars, je ne sais plus trop. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose. La sauce pogne des fois, mais pas tout le temps. Puis il y a le ton peut-être un peu trop grand public, là, si je, pour mes goûts, là, disons. Là, ce besoin de faire des scènes que universellement aimé, bien ça. Finir l'histoire.
Faut pas spoiler. Ouais, ben non, exactement. Il y a comme une demi-heure de trop, là.
Ça
aurait dû finir avant.
mais tu sais, c'est ça. Puis c'est la même critique qu'on avait fait à Intouchable. Tu sais, c'est souvent ça aussi qui arrive. Les critiques aiment pas tant les films de ces réalisateurs-là, mais le public les aime vraiment. Tu sais, Intouchable, je pense qu'il est dans le top 20 ou top 30 IMDB, là, puis tu sais, dans le Metascore, il est genre à 55, 58, là, tu sais. C'est ça, c'est des films, puis il faut pas bouder son plaisir, dans le sens que j'ai eu du fun, puis j'avais le goût de le voir, ce film-là. Tu sais, j'ai vu la bande-annonce, j'étais comme, ça a l'air intéressant, tu sais, ça a l'air, le ton a l'air bien, ben pas le ton, mais... Le timing comique a l'air bon, puis je vais pas cringe dans ce film-là. Puis j'ai pas cringe, j'ai pas ri aux éclats, c'était juste comme bien.
Ah, j'ai un petit peu cringe.
Ah ouais? À quel moment?
Surtout la fin.
Ouais, c'est vrai. La fin est un peu trop...
Comme la dernière demi-heure, je suis comme, il y a des affaires qui marchent pas.
Ouais. Mais dans les aspects comiques, tu sais, je trouvais que c'était un humour qui me rejoignait quand même un peu.
Oui, c'était comme du genre de petit awkward, un peu absurde.
Parce qu'on s'entend que les films de Franck Dubosc, c'est pas de l'humour qui me rejoint nécessairement.
Non, c'est ça, mais...
Niveau départ.
Je l'aime beaucoup, là, un des deux là, acteurs principaux.
Ouais, Jonathan Cohen, sûrement. Celui qui est plus genre kidam, là, celui qui est,
c'est
le plus grand, puis en tout cas. Bref, ouais, c'est ça. Mais ça reste un film de qualité que je pense qu'il y a clairement un public qui a le potentiel de vraiment aimer ça. Je pense toi et moi, on a peut-être vu un petit peu trop de films pour l'élever ou en tout cas le porter sur nos épaules. Ça reste un bon divertissement. Mais clairement, il y a un public qui va être comme « Ah, c'était vraiment drôle. »
Ouais, dans le sens, je sais pas si c'est un bon comparatif, là, mais si on le compare genre, à du Adam Sandler, là, qui est comme grand public. T'sais, Adam Sandler, c'est clairement comme plus axé comédie.
Ouais.
Lui, il est comme moins comédie, mais il y a quand même une partie critique sociale qui peut quand même apporter à des gens peut-être moins informés une réalité qu'ils connaissaient pas. Fait qu'il y a comme une plus-value éducationnelle, I guess, là, ou de, tu sais, qui tu sais, il y a quand même des moments plus tristes. Fait que, tu sais, il y a un petit peu plus de dynamisme, mais il est clair. Tu sais, c'est pas le même but, mais
bon. Non, c'est ça. Fait qu'il y a une année difficile. Allez voir ça au FCMS, ou sinon, il prend l'affiche également aujourd'hui là, à la Maison du cinéma. Donc, pourquoi pas? Allez voir ça. Sinon, on va vous parler d'un film québécois également, là, Sur la terre comme au ciel, un film de Nathalie Saint-Pierre qui prend l'affiche aujourd'hui. C'est un coming of age essentiellement de deux sœurs, surtout une là, des deux, mais en tout cas, les deux sœurs qui vivent dans une communauté...
genre de secte, là.
Ouais, un genre de secte, le mélange de secte puis d'Amish ou je sais pas trop quoi, une communauté évangélique. Mais tu sais, ouais, c'est une secte, mais au final, c'est des principes religieux.
Oui, ben c'est ça, ouais, c'est une catholique, secte catholique, là. Genre. Là,
mais... Ouais, une des deux sœurs disparaît mystérieusement, puis l'autre décide d'aller la chercher, puis ça l'amène évidemment à Montréal. C'est un film qui se passe aujourd'hui, là, même si vous regardez la pochette, c'est pas trop clair, ou peu importe. Là,
oui, ça a l'air d'un film d'époque.
Ouais. puis c'est ça, donc elle se ramasse à Montréal. Je ramasse chez sa tante aussi, là, qui n'est pas dans cette secte-là. Et puis, c'est ça, elle découvre... Tu sais, trame assez classique de Coming of Age, elle découvre le vrai monde. Ça ressemble un peu à Poor Things, si on veut.
C'est vrai?
C'est l'histoire, ben, tu sais, c'est l'éternelle histoire même de Pinocchio, là, de comme... je vis dans mon monde pur et simple, là, t'arrives dans le monde en déchéance, puis des affaires de même. Là,
ouais.
Ça a été fait mille fois avant, là, cette histoire-là. Puis ça se ramasse chez sa tante. Elle cherche sa sœur en criant son nom sur le coin des rues.
Ouais, ouais.
C'est pas mal.
Ouais, c'est un peu comme « Elle cherche quelqu'un, méthode médiévale, ouais. mais au 21e siècle. »
Ouais, ouais. Okay. Elle rencontre évidemment la faune urbaine là, des itinérants. Elle rencontre sa tante là, qui est aussi alcoolique, qui gère pas très bien sa vie. Puis c'est ça. Elle découvre cette faune urbaine-là, puis elle apprend à prendre certains éléments de la vie moderne sans nécessairement renier les éléments de sa vie pure d'avant.
Petit à petit.
Ouais, petit à petit. Est-ce qu'elle va y arriver? On ne sait pas. Je pense que j'ai un petit peu plus aimé ça que toi. Les critiques sont quand même bonnes sur le film. Même si moi, j'ai pas nécessairement trouvé mon compte, notamment parce que c'est une histoire qu'on a déjà vue avant. Tu mentionnais ça, l'aspect prévisibilité hors d'onde. C'est sûr que c'est ça, avec cette histoire-là, on sait un peu comment ça va finir. Ou on sait que ça finit d'une ou l'autre des façons.
Ouais,
il y a deux avenues possibles. Moi, la principale critique que j'y ferai avant de parler peut-être de ces points positifs, la principale critique, là, c'est vraiment que le jeu est trop forcé. J'ai trouvé, là, oui, mettons l'actrice principale qui est Lou Thompson, je crois, elle n'a pas joué dans beaucoup de trucs. Bon, son rôle demande à ce qu'elle soit assez stiff là,
ouais.
Dans son jeu. Fait que, mettons, oublions sa performance qui est correcte, mais qui est stiff. Il y a Edith Cochrane qui joue justement la sœur de sa mère, donc sa tante, qui surjoue beaucoup. Là. On l'a vu dans beaucoup d'affaires, on sait qu'elle a de l'énergie, on sait qu'elle a de la drive. Puis là, ben, on dirait qu'elle veut trop être une personne que, je l'imagine pas en Soulonne nécessairement, même si elle est quand même bonne pour le jouer.
Ouais,
elle joue bien une Soulonne, mais on dirait que c'est ça, elle joue une Soulonne. Elle n'est pas une Soulonne.
Ouais,
Méo dans Elvis Graton, on y croit. C'est un prof d'université, puis il est clairement pas un Soulonne, mais comme lui, on est capable de voir que c'est un tout croche.
Ouais,
Edith Cochrane a comme trop joué du range pour faire comme... Elle est capable de le jouer, mais c'était-tu la meilleure personne pour jouer ça?
Peut-être. Ouais. Je partage ça. Je pense que ça allait bien. Moi, je trouve que c'était quand elle était complètement scrap.
Ouais.
Il y avait des lines hyper scriptées.
Des mots que tu sors pas quand t'es
sûr. Ouais, c'est ça.
Ça aussi, je l'ai remarqué. Là.
En tout cas, pour moi, c'était plus ça qui est.
Ouais.
Puis que. Ben, ouais. Puis ça
ben, c'est vrai que
gros,
quand elle est à jeun, ça va. Là, son jeu est à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre. Bon, il y a le personnage, là, je sais pas exactement son nom. Ça doit être Sam, j'imagine, là, qui est joué par Dominique Dagenais, qui est comme l'itinérant, si on veut. Là, ça aussi, c'est comme pas tant clair tout le long, c'est quoi son...
Oui, c'est jamais nommé s'il est itinérant, vraiment.
Ouais, puis on sait jamais trop s'il est comme bon ou mauvais. Là, on sent qu'on a des mauvaises vibes, mais des fois... C'est un peu bizarre, la relation un peu entre les deux, là, j'ai trouvé.
Ouais, c'était bizarre, mais en même temps, je pense... Je trouvais que, en tout cas, j'ai comme calé où ce que ça s'en allait, mais en même temps qu'il y ait le flottement, j'haïssais pas ça, parce que c'est une relation dans la vraie vie, c'est un peu plus comme ça que lui, on le sait qu'il est méchant et qu'il profite d'elle. Là,
ouais.
C'est, en tout cas, fait que ça, j'ai pas haï ça. Là.
Ouais.
On en reviendra plus tard. Là. Y a une
mais qu'est-ce que t'as. Ouais, ben, on peut y aller tout de suite, mais okay. Sinon, me dire parce que ça, t'as un peu moins aimé ça que moi.
Comme tu dis, il y avait des trucs peut-être pas clairs. Moi, je pense que. Je veux pas trop spoiler, là, mais comme il y a une phrase à vers la fin, là, quand les deux sœurs l'attendent, puis ils se voient. Puis ils commencent à parler de leur père, là, qui les a comme un peu maltraités. Puis tu sais, comme vraiment random. Puis je comprends, tu sais, ça explique les agissements, mais comme, on dirait que ça aurait été mieux qu'ils n'aillent pas. Là, ils ont comme mis des mots qu'ils n'ont pas développés. Puis,
ouais, on aurait pu deviner que clairement, c'est deux sœurs qui vont pas bien parce qu'il y en a une qui est alcoolique, puis l'autre qui est ultra religieuse.
C'est que ça a été comme trop.
Ouais.
À mon avis, trop nommé, genre, pour pas qu'il développe. Ou, tu sais, ça a peut-être été plus sous-entendu, ça aurait été comme. Plus tôt dans le film, peut-être, là.
C'était
comme un peu à la fin. J'étais, ok, en tout cas. Ça allait un petit peu dans le même sens que toi, ce que tu trouvais de Sam, là, peut-être, que c'était comme pas clair.
Ouais, c'est ça. c'est correct, effectivement, que ce soit pas clair, mais je sais pas, tu sais, il y a peut-être. Puis tu sais, aussi, ben, ça, je partirais dans une autre direction, mais tu sais, c'est ça, les situations sont comme à la fois tirées par les cheveux par moment, puis d'autres fois, genre, vraiment bof, là, vraiment ouais. anticlimatique, là, dans le sens... Il n'y a pas une tonne d'action là, dans ce film-là, là, mais c'est justement là, le fait que qu'elle parle à un itinérant qui est évidemment un beau gars jeune. Il était pas le tout croche, vraiment.
Non,
là.
Non.
Tu sais, puis que...
Ouais, j'étais comme... Il consomme beaucoup de protéines pour un itinérant. Il était vraiment en shape, là. J'étais ouais, comme ouais, ça. Ça clash un peu,
c'est
là.
C'est ça, tu sais, la faune urbaine qu'on explore est pas très... Elle est très stagée, j'ai trouvé, là. Elle était pas très authentique. C'était peut-être pas le but non plus d'avoir, tu sais, on peut quasiment voir ça comme une fable ou comme, tu sais, on voit pas grand chose outre que je sais, ces 3-4 personnages là, il y en a pas vraiment d'autres, puis c'est ça, je pense que, tu sais, j'en sors avec une impression quand même positive, t'sais, j'ai aimé la réalisation qui était quand même, les couleurs étaient belles, mais tu sais, vu qu'on l'a vu mille fois cette histoire-là avant, il n'y a pas d'élément de surprise, mais tu sais, ça ajoute rien au genre nécessairement. Peut-être qu'on a découvert cette jeune actrice-là. En même temps, je pense pas que c'est un rôle qui l'a fait briller tant que ça non plus, là, parce que c'est tellement rigide. Mais tu sais, j'en ressors, c'est ça, avec une impression positive, mais je peux pas m'empêcher de. Tu sais, on en fait tellement des coming of age au Québec que tu sais. Je vois pas comment lui va ressortir du lot. Même si on a poussé fort pour une secte catholique, même si, tu sais, somme toute, c'est ça, le film est bien réalisé, bien construit. Il manque comme, je sais pas, de quoi qu'on fait. Ah oui, je me souviens. Tu sais, dans 3 ans, est-ce que je vais être capable de dire ah oui, je me souviens sur la terre comme au ciel. Je sais pas.
Ouais, je pense, mettons, la plus-value de ce film-là, c'est très québécois. Tu sais, il y a comme une découverte d'un œil nouveau Montréal, ou ce que tu sais, comme tu parlais de la réalisation, que j'ai quand même bien apprécié, qu'il y a vraiment des beaux plans de la ville, ce qui est quand même. Tu sais, il y en a plusieurs, le film, ouais. Là, mais tout ça, mais c'était très bien joué pour les plans. Mais fait que c'est la plus-value, puis je pense, il y a quand même un petit côté, tu sais, il y avait une discussion à un moment donné, là, c'était comme, pourquoi tu crois en Dieu, ben parce que sinon il n'y aurait pas de la terre, puis c'est qui a créé Dieu, ben c'est qui a créé le créateur, c'est comme un genre de discussion très typique keb au primaire, là, fait que j'étais comme, je sais pas, peut-être que ça joue là-dessus, là, de genre des questionnements un peu généraux, fait que c'est comme, ouais, ça va chercher nos racines québécoises, j'imagine, là.
Ouais, mais tu sais, j'essaie de voir, tu sais, c'est pour qui ce film-là. Puis, tu sais, on dirait que j'ai de la misère à me dire que c'est pour les jeunes, même si clairement, je pense que ça doit être à peu près ça le public cible.
Ben, effectivement, c'est vrai que, mettons, tu me dis l'histoire, je ferais. Bon, ça pourrait plaire à un public plus vieux, l'histoire, parce que là, ça parle un peu du clash religion, puis, tu sais, il y a cette discussion-là que je viens de parler entre Dieu, ça peut être confrontant ou comme amener une réflexion ailleurs. Mais tu sais, clairement que la réalisation, comme tout ça, c'est pas du old school. Là,
non, c'est pas un film d'époque. Ça se veut très moderne, puis très... C'est ça, film que tu vois quand t'es ado, là, tu sais, genre Perks of Being a Wildflower, t'as-tu vu ça? Je sais pas, avec Emma Watson, puis
Ezra
Miller, je sais pas trop. Mais tu sais, ça, c'est clairement un film que ton target, c'est des ados, tu sais, mettons, jusqu'à 25 ans, si on veut. Tu sais, ce film-là, je sais pas. Tu sais, je pense que le ton, il veut viser ce public-là, mais je pense que c'est du monde plus âgé qui vont aller le voir.
Ouais.
Des vieux critiques aigris qui sont comme ah oui, c'est de la qualité. Puis tu sais, je trouvais vraiment que c'est pas tout qui est acheté, ni même dans l'acting. J'ai beaucoup critiqué l'acting, puis je trouve qu'il est meilleur que dans bien d'autres films québécois, là, on va se le dire. Il y a certains moments où t'es comme ah oui, tu sais, cette scène-là est vivante, cette scène-là. Puis là, l'autre scène d'après, t'es comme ah, celle-là est un peu moins, est un peu moins bien réussie. Ouais. Fait que tu sais, c'était très. C'est ça, fluctuant. Je sais pas si c'est un mot. Mais je trouve que ça reste quand même un film peut-être supérieur à bien des films québécois ou même français là, qu'on reçoit ici. Il y a quelque chose de plus que d'autres films, mais au final, j'ai de la misère à le vendre. On va dire ça de même.
Ouais, de genre de dire hey, écoute-le pour ça. Là.
Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Une impression un peu partagée peut-être, mais. Comme je disais, j'en sors avec une impression plus positive que négative. Fait que Faites-vous votre idée. Encore une fois, oui. C'est toujours notre conclusion. Sur la terre comme au ciel, ben c'est de Nathalie Saint-Pierre et ça prend l'affiche aujourd'hui au Québec. Je termine vite avec le nouveau film de Ken Loach, donc qui est The Old Oak, que t'as pas vu malheureusement.
Il est expiré.
Oui, mais un jour, va le voir si tu vas au cinéma en fin de semaine. C'est l'histoire assez... Ça aussi, là, t'sais, je t'en avais parlé un peu hors d'onde. C'est le genre de film que, mettons, appliqué à un autre projet, tu sais, c'est histoire ultra, ultra, ben pas générique, mais tu sais, qu'on a vu encore une fois, plein de fois. C'est-à-dire une famille d'immigrants qui arrive dans un village reculé, bon, là, c'est en Angleterre, un village reculé qui est évidemment réticent à les avoir. On a déjà vu ça, on peut s'imaginer ce qui va se passer. Tu prends des acteurs non professionnels. Ça aussi, c'est toujours un coin toss. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ken Loach, bon, c'est un peu son trademark depuis une couple d'années. Ben, même de quasiment pour l'ensemble de sa carrière, mais tu sais, il a quand même fait appel à des vrais acteurs des fois. Une distribution non professionnelle, t'es comme, bon, qu'est-ce que ça va donner? On sait pas. Tu rajoutes à ça, tu sais, une espèce de feel-good movie qui est très... on sait comment ça commence, on sait comment ça va finir. Puis, en temps normal, c'est un film que je suis comme, ben, je peux pas donner plus que, on va dire, 5 sur 10 à ça, là, parce que tu fais pas preuve d'originalité, tu t'amènes rien de nouveau, ça attend. Mais tu mets ça dans les mains de Ken Loach, un gagnant de 2 Palmes d'Or, il a pas gagné d'Oscar, là, mais tu sais, c'est quand même un monument du cinéma britannique. Tu le mets dans ses mains, ce projet-là, puis t'es comme, crime, il y en a sorti un bon film. Puis, donc, tu sais, globalement, l'histoire, là, c'est des Syriens, ben, surtout une Syrienne là, qu'on suit, qui est photographe, qui arrive là, puis évidemment, il y a les services sociaux qui les aident à s'intégrer, mais elle va se lier d'amitié surtout avec quelqu'un qui aide les services sociaux parce qu'il a un bon cœur. C'est le propriétaire d'un pub, en fait, qui s'appelle The Old Oak. Puis là, ben, évidemment, dans son pub, c'est tous les white angry males là, qui sont dedans. Ils sont comme, là, ça n'a pas de bon sens. Puis lui, ben, en tant que barman, il est comme, ben, je peux pas dire que c'est dégueulasse ce qu'ils disent parce qu'ils viendront plus dans mon bar.
Ouais.
Mais je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Puis ils aident par la bande un peu cette. Surtout la fille photographe. Fait que, grosso modo, c'est un peu ça. Puis là, évidemment, ben, c'est un vieux monsieur blasé. Il a perdu sa femme. Puis tout. T'sais, il a perdu un peu la raison de vivre. Il vit dans un. Ben, on le vit aussi au Québec, là, le désertement des régions. Mm. T'sais, tu restes à Sawyerville. C'est pas très vivant comme village. Ben, les autres non plus. Leur village sont comme. Maudit que ça n'a pas de bon sens. Qu'on est en train de le laisser en ruine, notre village. Toutes les épiceries ferment. Personne veut venir s'installer ici. Ah, il y a du monde qui veut s'installer, mais je les aime pas.
Ouais, ils sont foncés, fait, eux.
Ouais, c'est
pas
ça.
Pas eux. Fait, t'es
c'est ça. Puis là, ben, c'est un peu le message, lui, du gars du bar. Tu sais, ouais. Il est comme devenu blasé parce qu'il est comme, ben, il me reste 20 ans à vivre. Là. Ça va être plate, ces 20 années-là, mais ça va être ça. Mais là, il retrouve un peu espoir avec l'arrivée de cette famille-là qui le pousse dans le cul un peu. T'sais, il réouvre une salle de réception qu'il avait, qui était dans son arrière-bar.
Ah.
Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment très feel-good comme film. Mais ce qui m'a peut-être le plus touché, puis c'est pas cette histoire-là, c'est le fait que soit un monsieur de 86 ans qui fasse ce film-là. Tu sais, il y a plusieurs façons de vieillir là, dans la vie.
On pense à testament.
C'est ça. Il y a testament. Il y a la façon de vieillir que je suis fâché après tout le monde, puis je tire partout, puis je suis comme, j'ai hâte de mourir. Ou il y a la façon de, hey, toutes mes amis sont de même, mais il faut comme s'adapter, puis il faut comme pas perdre espoir. Puis non, c'est pas pareil comme dans le temps, mais dans le temps, c'était dans le temps, puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Puis si on veut que ce soit pareil comme dans le temps, ben on va tout être raciste, puis on va battre nos femmes.
T'sais, ouais, c'est comme,
c'est pas le bon vieux temps. Là. C'était ouais. Un temps qu'il était facile pour les hommes blancs,
ouais,
mais que c'est ça. Fait que, puis tu sais, c'est un peu, mettons, c'est la même chose de Martin Scorsese aussi, vieillit bien, je trouve, en tant que réalisateur, fait des trucs autochtones, tu sais, changer ses sensibilités. Puis c'est ça qui me touche le plus, c'est de voir un vieux monsieur qui a toute sa vie a fait du cinéma social comme ça, qui essaye fort puis qui perd jamais espoir de comme, hey, oui, OK, il me reste 5 ou 10 ans à vivre, mais comme, je continue quand même à croire que ça va être cool, mais que je parte. Alors que Denis Arcand, en testament, il continue à croire que on va parler anglais dans 6 ans. Là, c'est à peu près ça. Fait que c'est ça. Ça m'a vraiment touché. Puis honnêtement, l'interprétation est vraiment très on point. Puis là, je sais pas si la barrière de la langue, il joue pour quelque chose. Tu sais, c'est de l'anglais de région. Là, c'est de l'anglais qu'on comprend rien, là, qui dit « shite » puis des affaires de même. Ça me charme aussi au cinéma. Là. Même un film moyen qui a ces accents-là, je suis comme, ah, ben c'est cute quand même. Fait que c'est ça, je suis peut-être pas là, le plus objectif dans ma critique, mais c'était vraiment cool pour vrai. Il y a peut-être des longueurs dans la deuxième heure là, qui fait que bon, c'est pas de longueur désagréable, mais je suis comme bon, vu qu'on sait déjà où ça s'en va cette histoire-là, t'sais, cut to the point. Là, ça, au lieu de durer 2 heures, ça aurait pu durer 1 heure et demie tant qu'à moi. Mais c'est ça, c'est vraiment un super bon feel good. Son film d'avant, je l'ai découvert avec son film d'avant en 2019 qui s'appelait Sorry We Missed You. Il a fait un film sur les livreurs Amazon, essentiellement. Là.
Okay.
Une famille de comme, c'est quoi être un livreur? T'sais, oui, toi, t'es riche puis tu commandes tes shit, mais celui qui te le livre, là, il va pas bien. Puis on le voit, je les vois, mes livreurs Amazon arriver chez nous, puis des fois, ils sont jeunes, puis t'es comme « Ah, ça va ». Des fois, ils sont comme « Ah, oh, je pense que celle-là, il... c'est pas une job facile. Là. Il est dans sa tercelle ou dans sa civique un peu. Il y a genre 40 000 boîtes en arrière. Puis je suis comme « C'est pas une vie, ça ». Puis on continue quand même à acheter ça. Mais bon, même ce film-là, c'est un film porteur d'espoir. « Sorry, we missed you ». Je pense qu'il est disponible en quelque part. Je me souviens plus si c'est Crave ou Netflix, mais
ça
allez
doit
voir
pas
ça.
Être sur... ça doit pas être sur Prime.
Non, j'espère pas. Là,
ça
sert
à la maudite.
Mais c'est ça, il a toujours fait du cinéma social, puis c'est ça. Il nous laisse un peu sur une note d'espoir, puis c'est encourageant. Encore une fois, c'est toujours touché des films comme ça, parce que le public qui va aller voir ça, c'est pas les angry white males. Là, ça va être des gens comme toi puis moi qui on est déjà vendu à l'idée, puis on est comme « Ah, c'est donc beau, l'espoir ». Mais bon, tu sais... Ne perdons pas espoir, gang. Il y a du monde comme Ken Loach qui nous dit que hey, ça va pas bien, mais c'est ça. T'sais, je vous montre pourquoi ça va pas bien, puis je vous montre une option pour que ça aille mieux. Allez voir ça, The Old Oak. Vraiment très, très bon. C'est mon film préféré. Quasiment un de mes films préférés de cette année, là, même s'il est sorti l'année passée, mais il sort au Québec cette année. Allez voir ça, The Old Oak de Ken Loach. On s'en va pause publicitaire, puis au retour, on se laisse avec, en fait, nos deux entrevues réalisées avec Lynn Charlebois, comme je le mentionnais, et Alexandre Goyette et Sylvie Moreau. Puis je reviens pour une brève conclusion au terme de tout ça. Donc, merci beaucoup. Sinon, on se retrouve. On se retrouve après la pause, mais on va se retrouver aussi la semaine prochaine.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de tragédie.
Donc, je suis en compagnie de Lynn Charlebois, réalisatrice du film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » qui a ouvert hier le festival, la 11e édition du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Bonjour Lynn, ça va bien?
Oui, ça va très bien.
D'abord, félicitations pour ce film-là. Qu'est-ce que ça représente pour vous que d'être un film d'ouverture de ce festival-là qui est à sa 11e édition et qui est quand même assez important dans le patrimoine culturel sherbrookois?
Ben, écoutez, c'est toujours un honneur d'être choisi dans un festival, faire l'ouverture d'autant plus. Puis, c'est le fun parce qu'on a tourné un petit peu dans les cantons de l'Est, donc c'était vraiment agréable. Puis, j'étais vraiment contente de faire partie de ce festival.
Donc, le film est quand même assez dense. Il y a beaucoup de choses qui sont présentées. On pourrait dire que peut-être la bougie d'allumage, j'imagine, qui est cette correspondance-là entre le frère Marie-Victor et Marcel Gauvreau. Comment vous êtes arrivé sur cette correspondance-là ou sur peut-être l'idée de ce projet-là? Comment ça vous est arrivé?
Bien, en fait, c'est Roger Frappier, le producteur de Borderline, mon premier film, qui m'a appelé il y a 6 ans, qui a dit « J'aurais un projet, je me demande si tu serais intéressé. » Ça serait les lettres de Marie-Victorin. Puis je pense qu'à cette époque-là, c'était sorti à Radio-Canada. Ça a fait un petit tollé, un petit scandale. Pas un scandale, mais c'est vraiment, ça a piqué la curiosité des gens. Puis, moi, j'ai dit, écoute, je vais lire les lettres. Tu sais, c'est épais, là. J'en ai eu à lire. Mais j'ai été vraiment estomaquée de l'originalité, comment ces deux-là étaient avant-gardistes. Là. On parle de 1930, 35. Et aussi, je me suis mis à lire sur les écrits de Marie-Victorin, parce que Marie-Victorin, en dehors de cette relation épistolaire, c'était un visionnaire. C'était quelqu'un qui dès 1930 a parlé du pays, comment on devait connaître notre pays, le Québec, et pas laisser ça aux Américains. Donc, c'est vraiment avant tout le monde. Le jardin botanique, c'est un des plus grands jardins au monde. C'est sûr que les lettres, elles étaient très surprenantes. Donc, je me suis dit, ben oui, il y a un film là. Puis on a travaillé avec Roger, Sylvie et Véronica. On a travaillé sur le scénario. Puis,
Est-ce que c'est intimidant que de s'attaquer comme ça à quand même deux figures emblématiques de l'histoire québécoise? C'est pas le premier film là, qui aborde justement le frère Marie-Victorin, surtout le frère Marie-Victorin, en fait. Premièrement, est-ce que c'est intimidant? Puis comment est-ce qu'on l'approche, ce matériel-là? Parce qu'on va sûrement y venir, là, mais c'est un film d'époque, mais c'est un film aussi dans un film. Comment vous est venu ou comment est arrivé justement sur le chemin que cette double histoire-là entre le présent et le passé, l'impact du passé sur le présent, et puis cette espèce de zone grise aussi dans cette correspondance-là entre leur relation platonique ou non? Là?
Ben, écoute, je pense que c'est la première fois qu'il y a un film sur Marie-Victorin, une fiction en tout cas. Je pense pas qu'il y en a eu d'autres, sinon je l'aurais visionné. Là. Ensuite de ça, Marcel Gauvreau, on l'a mis sur la map parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est qui Marcel Gauvreau, même si, ben parce que c'est l'époque, hein, les femmes en 1935, c'était ça. Le grand défi, c'était d'être fidèle à ces deux êtres-là, d'être à la hauteur de ces deux êtres-là. Ça, c'est le grand défi. Puis quand on dit que c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a vraiment... J'ai écrit avec Marcel Gauvreau et Conrad Kerouac, alias Marie-Victorin. C'est vraiment leurs mots, leurs phrases, leur amour qui s'échange dans les lettres que j'ai voulu mettre en exergue. C'était facile parce qu'il y avait vraiment des belles affaires. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bondieuseries, mais c'était ça qui les unissait. C'était la religion. Puis pourquoi je suis allée dans le côté moderne, c'était justement pour pas que cette religion-là les stigmatise. C'est-à-dire que, et aussi de regarder ces deux-là avec nos yeux de maintenant, ça aurait pu aller dans le côté, encore quelqu'un de la religion catholique. Parce que c'est vrai que Marie-Victorin, la religion qu'il représentait n'était pas tout beau tout le temps. Puis on connaît les scandales religieux, les religieux, la pédophilie et tout ça. Et moi, je voulais pas aller là. Je voulais pas que ça soit un combat ni un... Je voulais vraiment focusser sur cet amour-là, pur et... moi, j'appelais ça l'amitié avec un grand A, tu sais. Puis ici, c'est vraiment exceptionnel, là, ce qui s'envoyait. C'était vraiment au-delà de l'époque, de la religion, du langage. Moi, je pense que ça valait vraiment la peine de faire un film avec ça.
Est-ce que vous diriez que la proportion des échanges qu'on entend dans le film sont tirés mot pour mot ou à peu près là, en enlevant justement les mots d'église, comme vous avez dit? Est-ce que vous êtes resté fidèle justement aux mots, aux paroles, ou si il y a eu un travail quand même d'adaptation à faire?
Non. Les voix hors champ, c'est vraiment leur propos. Il y a même des lettres que j'ai mis en dialogue. Par exemple, je pense à une scène où ils parlent de la chasteté. C'est vraiment des paroles que j'ai... Parce que moi, j'ai toutes lu les lettres en chronologie. Donc, je voyais ce qui se parlait parce que, bon, vous m'avez parlé de la chasteté. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qu'elle avait dit. Donc, j'ai écrit une scène avec... Ben, c'est sûr que là, je l'ai mis en dialogue. Donc, ça faisait moins écrit. Je l'ai mis dans des mots. Comment ils peuvent se dire. Mais quand ils s'écrivent des lettres, c'est sûr que j'ai... C'est vraiment leur mot, là. Peut-être que j'ai coupé quelques fioritures, mais c'est vraiment leur mot. J'ai essayé de rester très fidèle à à leur langage.
Puis l'importance du langage aussi, on la constate dans le film, mais évidemment, c'est un langage d'époque, entre guillemets, mais très poétique aussi. Il y a même une scène là, dans le film où il parle de ce langage-là, en fait, mais on va vous la laisser découvrir. J'aimerais peut-être parler de la distribution, de comment vous l'avez assemblé. Est-ce que pour vous, c'était des choix naturels, Alexandre Goyette, Milan Maquet, ou comment s'est construit cette distribution?
C'est drôle parce que justement, tantôt, on parlait de casting, de faire des auditions. Et puis, non, d'emblée, j'avais pas d'idée préconçue. D'ailleurs, Marie-Victorin, c'était plus long que trouver Marcel. Marcel, j'avais deux noms en tête, puis ces deux-là ont dit non. Alors, il était occupé ailleurs. Et donc, on a fait des auditions. Et puis, Mylène, elle a pas pu venir en personne, elle a envoyé un tape. Et c'était extraordinaire. Alors, on a pris Mylène. Ça, c'était unanime. Pour Marie-Victorin, c'était plus long. Mais finalement, ça a été... on a opté pour Alexandre, puis on est très contents. Parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans Alexandre qui ressemble physiquement à Marie-Victorin. Il y a cette bonhomie-là, cette douceur. Cette douceur que j'ai découvert dans Alexandre. Parce qu'il a toujours joué un peu, souvent, les hommes forts. Là, mais là, c'était vraiment... on a fait beaucoup d'auditions.
Avec un film qui porte ce titre-là, dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. On s'attend un peu à un beau film, et c'est ce qu'on a, je crois. Moi, j'aime beaucoup les films. Souvent, je trouve au cinéma, on oublie un peu l'aspect visuel ou comment raconter une histoire par les images. J'aimerais peut-être vous entendre sur votre approche, l'approche que vous avez voulu donner au film visuellement. Il y a évidemment du paysage québécois, on peut pas y échapper avec cette histoire-là, mais un film d'époque aussi, c'est quand même assez rare. Et comment est-ce que vous avez approché visuellement justement ce film-là?
Premièrement, moi, je vais te dire que j'aime ça, les beaux films, mais un beau film, pour être beau, juste beau, ça m'ennuie un peu. Donc, mais c'est sûr qu'avec ce titre-là, ça avait besoin d'être beau. Mais c'était, tu sais, à la lecture de ces lettres-là, à la lecture des écrits de Marie-Victorin, en écrivant ce film-là, je me suis mis à regarder la nature vraiment différemment. Vraiment regarder un arbre différemment. Ça a changé un peu ma vision des choses. Bon, c'est sûr que je suis... les beaux cadres, j'adore les belles images, mais jamais quand c'est gratuit. Puis là, ben, je pouvais me payer la traite parce que ça parlait de c'est la nature. Alors, même quand on est allé en repérage pour des lieux de tournage, mon directeur photo, André Dufour, qui est un grand ami, on avait une petite caméra, puis on a filmé, puis on est allé à l'île d'Anticosti, on a pris plein d'images de nature. À chaque fois qu'on allait visiter un lieu, on faisait des plans de... Là, on voyait les fleurs sauvages en gros plan. C'est pour ça que je vous dis que ça a changé ma manière de regarder. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de piétage en amont, tout en sachant pas où j'allais mettre ça. C'était écrit au scénario, qu'il y avait mais c'était pas où est-ce qu'elles étaient les images. Il y a aussi Christine Et là, je me souviens pas de son nom. Christine, mon Dieu, Christine.
Christine.
Il y a aussi Christine qui a fait des images pour nous. Je lui disais ce que je voulais. Elle a lu le scénario. Donc, elle m'a fait plein de scènes dans le bas du fleuve, dans la région de Québec. Donc, je voulais représenter un peu partout où Marie-Victorin avait herborisé. On est allé à Mingan. On est allé, tu sais, c'est beau, là, Mingan. Puis, Havre-Saint-Pierre, Cap-Ferré, on a tourné deux jours là, on a tourné dans les îles Mingan. dans les cantons de l'Est. Mais on a fait il y a des shots dans le parc La Fontaine, là, on allait faire toutes les saisons. T'sais, c'était vraiment une passion avec André. André Dufour et moi, on partait et on disait « Apporte la caméra, on va faire plein de trucs. » Fait que le monteur, Yvan Thibodeau, il y avait du stock.
Ouais, puis il fait un très beau travail aussi, un beau mélange à même les dialogues poétiques, justement, ces images qu'on voit. Enfin, c'est très, très beau. Un film à voir sur grand écran. Pour ceux et celles qui l'ont manqué en film d'ouverture du Festival Cinéma du Monde, ben, il sera disponible le 21 juin prochain, donc pas mal partout au Québec. Lynn, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
Ben, je vous en prie. Bon film, bon festival.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Collés les uns aux autres sans narration.
Donc, je suis en présence d'Alexandre Goyette et Sylvie Moreau de la distribution de Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, qui est en ouverture de la 11e édition du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Bonjour, vous allez bien?
Très bien, et toi?
Oui, merci, on est content d'être ici.
Oui, d'abord, félicitations pour ce film-là qui est magnifique. J'ai eu la chance de le voir ce matin. Et puis, vraiment, un film surprenant, je crois. On parle de beaucoup de choses. Il aborde plusieurs facettes, évidemment. La beauté, je pense, sous toutes ses formes, ou même l'amour sous toutes ses formes, à travers, en grande partie, là, la correspondance entre Marcel Gauvreau et le frère Marie-Victorin. Je commencerai peut-être avec toi, Alexandre, nous parler un peu de comment t'as approché cette figure historique-là, emblématique même de l'histoire québécoise, qui est le frère Marie-Victorin. Comment tu l'as approché en tant qu'acteur?
Ben d'ailleurs, c'est que je partais pas mal du même point, je te dirais, que la moyenne des Québécois en ce qui a trait à Marie-Victorin, c'est-à-dire Jardin botanique, station de métro, cégep. Puis plus tu creuses, plus tu te rends compte de l'importance de cet homme-là dans le paysage politique, social québécois. C'est vraiment un homme qui a défendu les francophones, qui s'est investi dans le monde politique beaucoup, qui a enseigné, qui a développé la science pour les francophones aussi, puis qui a attisé la curiosité du peuple pour se sortir de la misère, vraiment, tu sais, sortir les Québécois francophones de la pauvreté. C'est vraiment un combat qu'il a mené toute sa vie. Il écrivait des billets dans le Devoir, bref. Et donc c'est un puissant fond de découverte. Puis cet homme-là, qui est un self-made man, lui n'a pas été à l'université, même s'il est devenu prof à l'université, mais c'est lui qui a nommé toute notre flore, mais il inventait les termes. C'était vraiment un précurseur, comme pour la flore, comme ça l'a été pour la sexualité aussi, et suite à ses explorations avec Mme Gauvreau.
Sylvie, de ton côté, ben, t'interprètes une religieuse. Il est un peu, on va dire, la ligne dure du parti, entre guillemets, là, qui représente un peu là, les valeurs traditionnelles de la religion catholique par opposition un peu à la modernité du frère. Peux-tu nous parler un peu de comment t'as approché, toi, ce personnage?
Oui, bien, c'est ça. Ben, en fait, tu sais, ce qui est le fun, c'est que, bon, c'est la sœur du frère Marie-Victorin. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, ben c'est aussi un personnage qui est là pour dans le fond, faire voir toute l'émancipation du personnage du frère, parce qu'elle, justement, est tellement plus, disons, conservatrice, bien sûr, dans son regard sur le monde et tout. Mais en même temps, ce que je trouve très intéressant dans l'écriture, dans le scénario, c'est que c'est aussi un personnage de femme et qui parle aussi indirectement de la condition des femmes à cette époque-là. Alors, elle a fait le choix de prendre le voile et tout, donc elle sait c'est quoi être réprimée, elle sait c'est quoi être enfermée, et c'est pour ça que c'est tellement confrontant pour elle, le personnage de Marcel Gauvreau, et surtout la relation, disons, mystérieuse entre Marcel Gauvreau et le frère Marie-Victorin. Donc ça, c'était le fun de... Puis, tu sais, explorer un personnage justement historique, puis un personnage qui est plus en retenue, qui est plus en pudeur, ben c'est toujours intéressant à faire.
Le film est un peu un film dans un film, on voit vos personnages dans la vraie vie, mais qui sont quand même personnages fictifs. Ça intéresse un peu sur notre sur la place, ben, à la fois sur le rôle de l'acteur et puis sur l'impact que les rôles peuvent avoir un peu sur votre vie. Est-ce que ça, c'est des histoires, des rôles qui vous plaisent à jouer en tant qu'acteur que de jouer d'autres acteurs?
Ben, écoute, là, tu sais, ça, c'est des fantasmes d'acteurs auxquels je te dirais qu'on n'ose même pas fantasmer. Tu sais, moi et Sylvie, on a une magnifique scène. En tout cas, je la vois, puis juste d'y penser, j'ai des papillons, c'est tellement le fun à jouer, mais où on passe d'un à l'autre, fait qu'on est dans nos personnages d'aujourd'hui, puis on se transforme en personnages d'époque, puis ça fonctionne super bien. Ça a l'air compliqué, mais c'est très, très simple, c'est finement amené, puis c'est tout ça, ça se fond bien dans le texte, puis c'est vraiment le monde moderne est un écho d'aujourd'hui, de ce passé-là d'où on est tellement loin aujourd'hui dans tellement de sphères, mais peut-être qu'il faudrait revenir à ça, pas à ce point-là, mais en tout cas se laisser toucher par cette douceur-là, ce respect-là, cette beauté-là, puis aller vers des valeurs qui peut-être nous correspondent plus avec notre humanité profonde.
Oui. Ah, mon Dieu. Bien, c'est le regard sur le monde aussi. Moi, c'est ce que je trouve habile dans la mise en abîme, justement, c'est de montrer des personnages d'aujourd'hui et avec notre vie d'aujourd'hui et le contexte de Marie-Victorin. Ce qui est le fun, c'est que c'est ça, c'est comme si cette époque-là nous disait qu'il faut réapprendre à regarder, à voir la beauté. C'est vraiment une leçon pour moi de... Il faut se réapproprier nos yeux, il faut se réapproprier notre lien à la beauté des êtres, à la beauté des choses, de la nature. Mais c'est vraiment de revenir à ça qui sont des choses, bien sûr, essentielles. Là, il y avait l'habillage des années 40, puis les costumes, puis les contraintes. Mais là, on est dans un monde soi-disant plus évolué, si tu veux, mais humainement, qui a l'air plus primitif que ce qu'on voit dans les années 40 dans le film. Ça, je trouve que c'est une leçon pour notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tabarouette, c'est comme si on a régressé presque dans notre façon de voir les humains, puis de rester en contact avec la nature, avec l'autre. Fait que ça, c'est ça que je trouve très habile. Tu sais, c'est pas... Le film demandait ça, appelait ça, puis c'est très bien fait.
Puis on vient de vivre l'éclipse qui nous a mis en contact avec quelque chose de vraiment unique, tu sais, pour ceux qui ont pu y assister. Puis durant le film, on a tourné dans des lieux exceptionnellement beaux. Puis ça nous a... Pour vrai, là, je veux dire, tu débarques aux Îles-Mingan, à Mingani, sur la Côte-Nord, puis t'as pas le choix de t'arrêter puis de faire « Caline, que c'est beau! » T'as des plantes que tu retrouves nulle part ailleurs. Si tu découvres ça, puis plus tu t'y arrêtes, plus t'es sensible à ça, plus... Puis là, c'est un cercle vicieux positif. Mais c'est un serpent qui se mord la queue, tu sais. Puis effectivement, tu le dis bien, cette beauté-là, on gagnerait tous à s'y arrêter puis à prendre conscience de ce qui nous entoure.
Parce que ça fait du bien. Tu sais, c'est pas le midi à 14h et c'est accessible à tout le monde, tout le temps. C'est autour de vous, de nous, dans notre vie, mais c'est à l'intérieur de nous qu'il faut qu'on décide de regarder les choses autrement, tu sais.
Oui, on a perdu ce réflexe-là, justement, que de juste s'arrêter puis regarder autour de nous. C'est un sujet qui est inépuisable. On pourra en parler quand même longtemps. Je veux terminer peut-être avec l'importance peut-être des festivals ou de la projection de ce film-là en festival. Évidemment, il va prendre l'affiche à la fin juin. Qu'est-ce que ça représente que ce festival-là, que cette projection, que ce soit le film d'ouverture, parce que là, ben, la salle va être bondée, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vont le voir. C'est un film à voir sur grand écran aussi parce qu'il est tellement beau de plusieurs facettes visuellement, mais aussi très poétique. Qu'est-ce que ça représente? Puis pour vous aussi, de faire des tournées comme ça dans des salles aux quatre coins du Québec, qu'est-ce que ça représente donc les festivals pour lancer un film ou comme lieu de discussion justement des sujets abordés?
Ben, c'est ça, c'est le privilège de rencontrer le public là où il est. Hein? Donc ça, c'est toujours formidable parce que tu sens que le public apprécie. Mais nous aussi, on a l'occasion de les rencontrer, d'avoir des questions réponses. C'est rare. T'sais, au théâtre, on a tout de suite la relation avec le public, mais au cinéma, c'est toujours bien mystérieux. On travaille à part. Fait que là, ces événements-là nous permettent d'aller à la rencontre directement du public. Fait que ça, c'est toujours le fun.
Et, tu sais, certains certainement que l'industrie est beaucoup à Montréal, mais on fait pas des films pour Montréal. Puis fait que c'est important que les films circulent, puis il y a une vie en région, puis il y a une vie partout à travers le Québec. Fait que comme artiste, je pense que c'est essentiel qu'on soit là aussi le plus possible. Tu sais, le film a aussi été à Rouen, moi je pouvais pas être là, Sylvie était là. Des fois, il y a des conflits d'horaires qui nous empêchent de participer, mais quand on peut y aller, on y va, puis règle générale, on aime ça. Ouais.
On souhaite longue vie au film, évidemment, là, qui va prendre l'affiche le 21 juin prochain. Sylvie, Alexandre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler.
Merci.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation. Le montage et la direction photo.
C'est déjà tout pour cette émission de Ciné-Histoire. La semaine prochaine, je n'ai même pas trop regardé les films qui sortaient. Je sais qu'on va peut-être reparler un peu de Festin boréal que je vous avais mentionné la semaine dernière. Très, très bon film de Robert Morin. Là, je pense qu'il va peut-être même être de passage à Sherbrooke. Il faudrait que je revérifie mes courriels. Mais sinon, on va tomber dans une petite période creuse, je crois, d'ici le mois de mai, où là, il y a quelques blockbusters qui sont attendus. Fait que on va vous en reparler. Peut-être avec un peu de chance, on va pouvoir vous parler de Roadhouse, qui sait, ce chef-d'œuvre, ce remake du classique des années 80, donc disponible sur Prime. Il y a aussi un peu de séries télé là, qui sont sorties, fait que peut-être que je vous ferai un petit topo là-dessus. Bref, on verra tout ça. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de Ciné-Histoire.